Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Flashback sur Séances Radio.
Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran.
Toute l'actu des grands classiques du cinéma.
Bientôt, les films vont être sonorisés.
Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill.
Flashback sur Séance Radio.
Ça, c'est le cinéma.
Cette semaine en flashback, on parle de l'édition DVD Blu-ray de Tuer Charlie Varrick de Don Siegel, en compagnie de l'auteur et réalisateur de Guideline. Dans l'actualité des sorties DVD Blu-ray, coup de projecteur sur Tuer Charlie Varrick de Don Siegel, réalisé en 1973, qui sort dans une très très belle édition chez Wildside. Charlie Varrick, qui est campé par Walter Matthau, cambriole une banque avec sa femme et son acolyte. Nous sommes au début du film, mais il comprend vite que la somme énorme qu'il a dérobée appartient à la mafia, qui va lancer alors un tueur impitoyable à ses trousses. Un pitch somme toute classique pour un film qu'il est nettement moins. Et pour en parler, nous recevons Doug Headline, cofondateur de la revue Starfix, auteur de plusieurs ouvrages et réalisateur de nombreux documentaires, qui a rédigé un livre présent dans cette édition DVD. Ce livre revient sur l'histoire du film et la carrière de Don Siegel, qui, rappelons-le, fut entre autres le mentor de Clint Eastwood en le dirigeant à 5 reprises, notamment dans l'Inspecteur Harry et Les Proies. Doug Headline, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors, Don Siegel se considérait-il comme le dernier des indépendants, à l'instar du titre de votre livre?
Eh bien, peut-être. Je pense que, en tout cas, il était l'un des vrais indépendants de Hollywood, avec quelques autres, par exemple Samuel Fuller ou Robert Aldrich, qui sont des réalisateurs qui ont commencé finalement à peu près tous à la même époque, dans les années 40 ou à la fin des années 30, dans des postes plutôt subalternes au sein des grands studios, et qui en fait étaient des hommes au caractère un peu intraitable et très décidé, des gens déterminés, qui ont réussi à, partant de différents postes, par exemple, Don Siegel était monteur et réalisateur de seconde équipe sur beaucoup de grands films. Il a monté, par exemple, la séquence d'ouverture de Casablanca de Michael Curtis, qui est une séquence archi connue. Bon, et plein d'autres choses. Beaucoup de films avec Raoul Walsh, avec Hawks, voilà, donc qui ont été un peu ses maîtres à penser. Ces gens-là, en fait, avaient une fibre particulière. Ils avaient envie de faire leurs films à leur façon, sans pour autant se couper complètement des studios. En tout cas, c'est le cas de Fuller, de Aldrich et de Siegel. Il y a eu d'autres cas, je pense à John Cassavetes, sur qui j'ai beaucoup travaillé, qui lui était carrément dans une position beaucoup plus antagoniste avec le système. Mais là, nos trois réalisateurs, et Siegel peut-être en premier, étaient compatibles avec les studios, pour reprendre un mot à la mode ces jours-ci, et tout à fait capables en même temps de faire des films singuliers qui leur ressemblaient et sur lesquels ils lâchaient pas grand-chose.
Oui, parce que vous dites vous-même dans votre livre, il se considérait comme un mercenaire au sein du système.
Oui, Siegel avait une vision, avec le temps qui passait, de plus en plus, disons, désabusé de sa propre fonction, mais je crois que par moment, il s'en est aussi un petit peu amusé, c'est-à-dire que se qualifier lui-même de mercenaire, c'est-à-dire de dire qu'il était capable de prendre n'importe quel boulot, c'était à la fois assez vrai, mais il prenait seulement les boulots qui, dans le fond, lui permettaient de faire les choses qu'il avait envie de faire. C'est-à-dire que si on met côte à côte, il a fait 36 films, si on met côte à côte ces 36 films, on va voir que dans un grand nombre, il y a des héros qui sont relativement similaires ou analogues, qui sont des héros de personnages indépendants, comme Charlie Varrick, donc le dernier des indépendants. C'est des types qui ne veulent pas rentrer dans le moule de la société, qui n'aiment pas obéir à l'autorité, qui n'aiment pas se plier aux règles, et qui sont du coup souvent un peu à la marge, ou rejetés à la marge, ou s'y mettant eux-mêmes. Vous avez cité l'inspecteur Harry, eh bien voilà, c'est là pas un braqueur, ni un gangster, mais un flic, et eh bien c'est un personnage qui est en marge du système, parce qu'il ne veut pas jouer dans les règles. De même, beaucoup d'autres protagonistes des films de Siegel sont dans ce rôle-là, dans le rôle du révolté ou du marginal ou de celui qui a du mal à se plier au système. C'est le cas de Charlie Varick qui en est un très bel exemple.
Alors, Siegel, il fait une carrière qui est finalement longue et qui est quand même à cheval sur des périodes différentes. C'est-à-dire, au début, il est dans la période du film noir, et ensuite il est dans une période qui est déjà la période du nouvel Hollywood. Il est à cheval sur plusieurs époques. En dehors de ce caractère de personnage un peu marginaux, qu'est-ce qu'on peut donner comme élément qui caractérise sa patte ?
C'est quelqu'un qui a une très grande précision du fait que sa formation de monteur lui a bien servi. C'est aussi le cas de gens comme Robert Wise, par exemple, qui a fait une magnifique carrière dans des genres très divers, mais parce qu'il savait tourner à l'économie de par l'activité de monteur qu'ils avaient menée avant de passer à la mise en scène. C'est des gens qui savaient exactement ce dont ils allaient avoir besoin, et Siegel poussait ça d'une manière un peu hitchcockienne jusqu'à dire qu'il allait essayer de tourner le moins possible pour qu'il y ait le moins de plans possible que les producteurs puissent éventuellement venir tripatouiller pour modifier son montage à la fin. À partir du moment où il ne donnait pas plus de matériel que ce qui était absolument nécessaire, eh bien on ne pouvait pas raconter une autre histoire avec un surplus de plans qu'il aurait pu tourner. Donc ouais. Il tournait de manière économique, ça c'était satisfaisant pour les producteurs, parce qu'il faisait les films pour moins cher que d'autres, plus rapidement, il finissait même parfois en avance, et en même temps pour lui c'était bien parce qu'il réussissait à maîtriser beaucoup mieux le matériel. Il n'y avait pas de choses qui débordaient, il n'y avait pas de surplus, voilà. Donc ça, c'est ça. La précision et l'économie, son style. Et l'efficacité. C'est quelqu'un qui sait très bien gérer les scènes de violence, par exemple. Il y a deux scènes, disons, spectaculaires de poursuite et de casse dans Charlie Varick, qui sont des scènes qu'on peut même qualifier de morceaux de bravoure, tellement elles sont bien gérées d'une manière épatante, à l'économie, certes, mais avec un sens du spectaculaire et de la brutalité qui est peu commun.
Alors, Charlie Varick, parlons-en justement. Il est considéré comme un des meilleurs films de Don Siegel, qui en a quand même réalisé beaucoup, hein, plus d'une trentaine. C'est pas forcément le plus connu, mais c'est incontestablement un de ses meilleurs films. Alors qu'à l'époque, il n'avait pas été très bien reçu, ni par le public, ni par la critique.
Non, le film est passé un peu inaperçu, mais vous avez parlé de la longue carrière de Siegel, et c'est exactement le même cas pour Aldrich et pour Fuller. Ce sont des gens qui ont commencé avec le système des studios à la fin des années 30, au début des années 40, et qui ont travaillé dans le système des studios d'une manière différente de la plupart des tâcherons de studio. Eux gardaient leur esprit indépendant, mais en même temps, ils ont bien profité de ça, et ils ont réussi à aller jusqu'à la fin des années 70, et ils se sont tous cassés les dents sur les années 80. Après, c'était pas une question d'âge, c'est pas des gens qui étaient très âgés au moment des années 80, ils auraient pu continuer à tourner, mais simplement la formule de création du grand Hollywood n'était plus en vigueur. Le cinéma indépendant des années 70, c'est quelque chose qu'ils ont très bien su adapter, mais après, quand on est passé à l'industrialisation moderne, finalement, qui a eu lieu dans les années 80, ces cinéastes-là n'avaient plus leur place. Hollywood ne voulait plus les faire tourner. Et du coup, un film comme Charlie Varick annonce déjà presque ça, c'est-à-dire que c'est un film qui sort la même année que des choses extrêmement mémorables. Hein. L'année 73, qui est l'année de Charlie Varick, c'est aussi l'année de Serpico, de Papillon, de L'Exorciste, de Mean Street, de American Graffiti et encore un tas d'autres. C'était une année où il y a énormément de films très marquants dont on se souvient aujourd'hui encore comme des classiques, heureusement. Et donc un film comme Varick, qui est finalement une super série B ou une série B super vitaminée, passe un peu inaperçu parce que c'est finalement du cinéma à l'ancienne, c'est du cinéma old school, c'est un polar des années 50 finalement, mais avec la liberté de ton des années 70, avec la virulence et le côté subversif du cinéma des années 70. Donc c'est là que Siegel a été très fort, c'est qu'il a jusqu'à la fin finalement, jusqu'à L'Évadé d'Alcatraz avec Eastwood, son dernier film avec Eastwood en 79, réussi la synthèse du cinéma classique de Hollywood et du cinéma indépendant des années 70. Et du coup, c'est vraiment un cas presque unique. Hein. Bon, Fuller et Aldrich étaient dans la même lignée, mais ils sont très peu. Hein.
Alors, il y a une des caractéristiques de ce Charlie Varick, c'est qu'on a des seconds rôles qui sont absolument extraordinaires. Je dois dire que même au début, pendant le casse, par exemple, il y a des successions de plans sur des gueules qui sont à chaque fois extraordinaires. On vous parlait de trucs où il n'y a pas un plan superflu,
Il y a un côté même presque truculent aussi dans les personnages.
Ouais, voilà. Mais donc, il y a des personnages. Est-ce que vous pouvez nous parler, par exemple, de Joe Dunbaker qui joue l'envoyé de la mafia, finalement très 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 particulier, sadique, en même temps un peu onctueux, qui poursuit Charlie Varick?
Oui, alors bon, Siegel était très bon pour camper les seconds rôles. Il a toujours eu des castings effectivement de gueules, de gens qui avaient des têtes pas possibles. Bon, ça va de Neville Brand à un tas d'autres, et là on était sur Joe Dunbaker, qui est fantastique dans ce film, hein. C'est quelqu'un qu'on a finalement peu connu en France. Il a été petit peu une petite vedette au moment de Justice sauvage de Phil Carlson, qui était un gros film de vengeance qui avait extrêmement bien marché à l'époque, où il jouait un shérif buté et brutal, et le film a été un gros carton, mais c'est un peu son seul gros succès commercial. Là, il joue l'inverse, il joue un tueur sadique, comme vous l'avez dit, un tueur complètement épouvantable, qui n'hésite pas à frapper les femmes, les vieux, les infirmes, voilà, à tuer des gens d'une manière horrible, enfin bon, il a aucun scrupule, hein, et le personnage s'appelle Molly, et il a tout sauf l'allure d'une fille et le caractère doux qu'on pourrait prévoir avec un nom pareil. Non, c'est vraiment une ordure absolue, et il est très très méchant, et il fait un peu peur, parce qu'il est tellement capable de tout que... Voilà. Alors au milieu de ce film, Charlie Vary, qui est quand même avant tout, je crois que c'est ça qu'il faut dire, c'est un super polar, quoi. C'est vraiment un super polar, et un des meilleurs peut-être qui a été tourné de toute l'histoire du film policier. Bon, c'est vraiment un film qui rappelle Quand la ville dort, parce que le protagoniste, Charlie Vary, qui est un petit peu le Dick Sandley de Houston, bon, voilà, il y a plein de ramifications pour ce qui est du polar, mais on se retrouve au milieu d'une galaxie de personnages secondaires qui sont tous plus épouvantables les uns que les autres, et très marquants, et où il y a cette scène formidable qui pour moi résume très bien le film, où on voit Molly, le tueur sadique engagé par la mafia, et son patron, enfin le type qui l'a commandité, Maynard Boyle, qui est joué par l'excellent John Vernon, encore un excellent second rôle, qui sont en train de discuter dans une casse auto, à deux pas d'une petite route, où derrière eux, alors qu'ils sont en train de planifier l'exécution de Charlie et de son acolyte, et donc de parler de tuer des gens de sang-froid, passent quelques bagnoles dans l'arrière-plan, qui sont certainement conduites par des cadres ou des employés ou des ouvriers qui vont au boulot ou qui vont faire leurs courses ou qui emmènent leurs enfants à l'école. Et on se dit, voilà, là, Siegel est très subversif parce qu'il montre la coexistence inavouée, finalement, de deux mondes aux États-Unis à cette époque, une Amérique très traditionnelle, tout va bien, le film commence par un lever de drapeau et des enfants qui jouent dans les jets d'eau avec leurs chiens. Alors on se dit, ça, c'est l'Amérique traditionnelle. Et puis, en fait, à l'intérieur de ça, eh bien, le système est complètement pourri parce qu'il y a des gens qui ont une vie parallèle et qui sont capables de planifier des meurtres, des exécutions, des braquages et du blanchiment d'argent impunément. Voilà. Donc ça, c'était assez subversif pour l'époque.
Il y a aussi, il y a quand même une certaine gauloiserie dans le film, justement. Joe Don Baker, à un moment, arrive dans une espèce de bordel qui est dans des baraques plus ou moins préfabriquées. Enfin, c'est tout à fait étonnant. Et puis, on retrouve Félicia Farr, qui était très, très coquine dans 3h10 pour Yuma, qui n'a pas fait énormément de films, qui était la femme de Jack Lemmon, et qui là est dans une scène de lit dans lequel il y a un dialogue assez truculent quand même.
Oui, tout à fait. Oui, le film est un peu grivois par certains côtés. En fait, c'est la liberté de ton des années 70. Hein. C'est un truc qu'on a un peu perdu maintenant, mais à l'époque, c'était pas très difficile de mettre des gens dans un lit pour leur faire tourner une scène. Et on pouvait allègrement traiter ça comme si ça avait été un dialogue dans un salon. Je veux dire, donc, l'esprit libre des années 70 est bien utilisé parce qu'il sert vraiment à montrer cette duplicité de la société américaine qui finalement est pourrie de l'intérieur avec des bordels à tous les coins de rue, des gens qui vivent, les vieux qui sont laissés pour compte dans des caravanes ou des mobilhomes complètement délabrés, les tueurs et la mafia qui essaiment partout, enfin bon, des jeux clandestins, des machins, enfin il y a vraiment une espèce de contre-société qui est implantée dans la société officielle et qu'on voit très bien passer. Et du coup, bah oui, les gens sont un peu en roue libre dans ce film, hein. Ils font tous un peu des choses inattendues, le film est très surprenant par certains côtés, et il est aussi surprenant par cette liberté de ton, je crois, qui est une chose qu'on a perdue.
Et il est surtout à redécouvrir ou à découvrir pour ceux qui ne l'auraient pas encore cette chance de l'avoir vu. Merci beaucoup Doug Edline d'avoir été avec nous. Je rappelle donc la sortie en DVD et Blu-ray de Tuer Charlie Varick de Don Siegel chez Wildside.
You count it?
Yeah.
How much?
$765,118 even.
I thought I'd never live to see that much money. Never mind, have it for my own.
One third.
Huh?
One third is yours, two thirds is mine.
Sure, good buddy. Sure, that's what I meant.
We're missing the news.
Flashback sur Séance Radio.
Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran.
Toute l'actu des grands classiques du cinéma.
Bientôt, les films vont être sonorisés.
Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill.
Flashback sur Séance Radio.
Ça, c'est le cinéma.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.